Alors bienvenue, donc je suis le frère Cyril, donc je suis Carme Deschaux et nous allons voir, nous allons évoquer aujourd'hui l'œuvre de la providence divine chez Thérèse et donc chez nous aussi. Comment tirer bénéfice de la providence divine qui agit tout le temps à nos côtés, qui agit tout le temps pour nous, sauf que nous, on passe, allez, 99,9% de notre temps à côté. Un petit peu comme un cheval qui meurt de soif. Et qui a des œillères et qui ne se rend pas compte que juste à sa droite, il y a une bonne source d'eau bien fraîche qui pourrait le revigorer et le remettre en route. Alors, l'objet de cet atelier d'aujourd'hui et de demain ne sera pas de faire de grandes considérations théologico-théoriques sur la providence divine. L'objet sera d'essayer de voir, grâce à Thérèse, comment nous aussi, nous pouvons tirer profit de la providence divine qui, encore une fois, est constamment là à nos côtés pour avancer dans notre vie spirituelle. Parce que Thérèse, elle a beaucoup à nous apprendre au sujet de la providence divine dans nos vies. Et quand elle écrit Histoire d'une âme, Thérèse nous décrit avec simplicité et profondeur ce que l'action discrète mais réelle de Jésus est en train de faire pour elle. Et elle le voit et elle s'appuie dessus. Et alors, c'est toujours bon de le noter parce que Thérèse, comme elle est géniale, elle écrit de manière très simple des réalités très profondes, très vraies. Du coup, on risque de croire que Thérèse est une sainte rose bonbon et que sa vie a été rose bonbon. Or, c'est pas vrai. C'est faux. Quand elle a 22 ans, qu'elle commence à écrire Histoire d'une âme, elle écrit: Je me trouve à une époque de mon existence où je peux jeter un regard sur le passé. Mon âme s'est mûrie dans le creuset des épreuves intérieures et extérieures. Alors avant d'aller plus loin, si l'un ou l'une d'entre vous a envie de relire Histoire d'une âme, faites un jeu. On va le faire d'ailleurs dès maintenant. Vous ouvrez Histoire d'une âme au hasard, à une page, et vous allez voir qu'à chaque page, Thérèse parle de ce que la providence divine fait avec elle et pour elle. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais demander une main innocente. Une main innocente, voilà, très bien. Vous allez ouvrir au hasard. Nous sommes dans le manuscrit A. Alors, donc on est à peu de temps après sa première communion, qu'elle entre pour la confirmation où elle reçoit le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, mais ça, voilà, c'est un autre sujet. Je n'y reviens pas, je n'y reviens plus. Voilà. Hein? Oh, ben si, mais je prends le temps de lire quand même, c'est Thérèse, je voudrais pas vous dire n'importe quoi. Et Thérèse écrit, voilà, Jésus se plaît à réaliser mon désir, il est toujours, lui seul, ma douceur ineffable. Et donc là, elle parle de son temps à l'abbaye bénédictine où elle est scolarisée, hein, elle est adolescente, ou un peu avant, dirions-nous aujourd'hui. Et elle souligne que voilà, dans ce lieu, Jésus se plaît à ce qu'elle passe un moment un moment de son existence avec de la douceur et aussi des amertumes. Ça, elle en parlera après. Mais le sujet de la phrase, c'est Jésus. Alors, continuons à avancer. Parce que Thérèse, elle a senti l'urgence de se confronter à la question de qu'est-ce que fait Jésus avec moi en ce moment, aujourd'hui? Quelle est l'œuvre de sa providence dans ma vie? Quand tout va bien, mais aussi quand tout semble aller de travers. Elle l'a dit, hein, dans le passage que je vous ai cité, mon âme s'est mûrie dans le creuset des épreuves intérieures et extérieures. Et ce creuset des épreuves, des difficultés, des souffrances, nous en avons tous notre lot. Qui parmi vous n'a jamais souffert? Ah, mais n'hésitez pas, hein, le. Ce serait se faire illusion que de se dire ou de faire croire aux autres, oh, vous savez, moi, j'ai pas d'épreuves, j'ai pas de difficultés, enfin, tout dans ma vie est bleu ciel, quoi, hein, donc, vous pouvez m'applaudir, j'ai une vie rose bonbon. Non, ça, je crois que vous n'avez jamais entendu, et celui qui vous tiendrait à un tel langage serait quand même un fieffé menteur. Et il ferait mentir Jésus lui-même. Pourquoi? Parce que Jésus, en Matthieu 10, 38 et dans d'autres passages, il est très clair. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. ou encore en Marc 8, 34, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Dans ces deux citations, il y a d'autres, hein, il y a quelque chose qu'on relève quasiment jamais. On passe à côté, comme si c'était évident, mais c'est tellement évident en fait qu'on passe à côté et on n'en profite pas. Jésus est clair, la croix, elle est déjà là. Jésus ne nous dit pas de « fabriquez-vous une croix et puis vous me suivez après ». Non, la croix, elle est déjà là. Chacun a sa croix. Et la croix, c'est quoi ? La croix, c'est l'amour qui a été rejeté par le monde. Rejeté partiellement par Adam et Ève lors du péché originel, rejeté totalement par les anges déchus, ceux qu'on appelle aujourd'hui les démons. Nous reviendrons sur la question demain des anges qui sont coacteurs de la providence divine et qu'on oublie bien souvent, mais ça, je reviendrai sur ce point demain. Si le monde d'aujourd'hui avait accepté l'amour, le monde tel qu'il est aujourd'hui n'existerait pas. Il aura un autre visage. La guerre en Ukraine n'existerait pas. Tous ces malheurs qu'on inflige aux femmes pour porter un enfant qui ne sera pas le sien dans son ventre, tout ça, ça n'existerait pas. Etc. Ou bien tous ces super milliardaires du monde qui ont de l'argent à ne pas savoir quoi en faire, seraient les premiers à en distribuer une grande part aux pauvres. Alors ils le font déjà, mais c'est quand même dans des quantités qui pourraient être beaucoup plus grandes. Eh bien, nous sommes faits à l'image de l'amour, nous sommes faits à l'image de Dieu. Et comme nous vivons dans un monde qui a rejeté l'amour, la croix est là. C'est pas plus bête que ça. Et c'est comme ça que dans sa vie, mais je vais revenir sur sa vie tout à l'heure, Thérèse va expérimenter toute une période de sa vie où elle va être complètement cabossée par les épreuves avant de pouvoir retrouver une force d'âme qu'elle avait perdue. Cette force d'âme, nous verrons comment elle l'a retrouvée et qu'est-ce qu'elle était. Mais pour l'instant, appuyons-nous comme Thérèse sur la Bible. Dieu est très clair. Romains 8, 28, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. C'est une vérité à redécouvrir, c'est un acte de foi à retrouver. Jusqu'où est-ce qu'on accepte les événements qui nous arrivent ou qui arrivent à d'autres, à nos enfants, à notre conjoint? La question est d'autant moins facile que le malheur est parfois d'une cruauté telle que franchement, arrêtons de dire « la Providence a voulu que »,« Dieu a voulu que ». Parfois c'est vrai. Mais il y a eu tel malheur que, non, attention, c'est horrible de dire ça. Aller dire à un enfant qui a été victime de pédophilie, écoute, c'est la providence divine qui a voulu que tu passes par là parce qu'il y a du bien qui te sera fait par la suite. Waouh, c'est juste ignoble de dire ça. Et c'est faux. Il faut faire une distinction quand on vit notre vie et quand on essaie de discerner ce que Dieu est en train de faire avec nous au jour le jour. Il faut faire une distinction nette entre l'action du péché, l'action pécheresse, qui s'oppose clairement à la volonté de Dieu. Dieu ne souhaite pas le péché. Dieu n'incite pas au péché. Il faut distinguer cela, d'autre part, avec la situation douloureuse qui en résulte pour la victime, que ce soit moi-même ou que ce soit autrui. Thérèse elle-même, la petite Thérèse, par exemple, elle n'acceptait pas tout comme volonté de Dieu dans ce qui lui arrivait. Par exemple, Mère Marie de Gonzague, qui était la supérieure du Carmel à son époque, avait humilié Sœur Geneviève, c'est-à-dire Céline, la sœur de Thérèse. Et il y a une sœur qui s'appelle Sœur Aimée de Jésus qui va trouver la petite Thérèse et puis qui lui dit à Thérèse, « Mère Marie de Gonzague a bien le droit d'éprouver ma sœur Geneviève, pourquoi s'en étonner ?» Sur ce, donc c'est un témoignage que je vous lis, donné au procès de béatification de Thérèse. « Sur ce, la servante de Dieu, c'est-à-dire Thérèse elle-même, me répondit avec émotion, il s'agit d'un genre d'épreuve qu'on ne doit pas donner. Thérèse n'est pas d'accord. L'humiliation qui a été infligée à Sœur Geneviève, ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la providence divine qui a fait en sorte que Sœur Geneviève puisse se sanctifier grâce à cette humiliation qu'elle a subie. Il faut être très clair là-dessus. Très clair, parce que bien souvent, j'ai encore de temps en temps des réflexions de ah bah j'ai un cancer, c'est Dieu qui a voulu pour que je me sacrifie. Allez, arrête, reviens sur terre, quoi. Reviens colombe, comme on dit dans le Cantique des Cantiques, hein. Arrête de t'envoler, aie les yeux au ciel, mais garde les pieds sur terre. Bref, Thérèse, comme tous les saints du ciel et comme Dieu lui-même, est en désaccord profond avec l'injustice qui peut se commettre ou qui peut être subie. Et pour terminer avec cette anecdote de l'humiliation de sa sœur, sœur Geneviève, il nous est dit que Thérèse était véritablement émue de compassion pour sœur Geneviève, pour bien montrer que toutes les difficultés que nous pouvons vivre ne laissent pas le ciel indifférent. Parfois, vous savez, on se demande, mais où est Dieu? Que fait-il? Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'il m'aime? Oui. Pour l'instant, voilà, on ne s'en rend pas compte, il n'y a qu'au ciel qu'on se rendra compte combien il était présent à nos côtés et combien il était ému de compassion, pris de pitié pour ce que nous avons pu vivre. Bref, Dieu ne veut pas le péché. Mais il est tout-puissant. Il peut faire son œuvre de vie, son travail de vérité en nous, qu'il y ait péché ou pas. Il était tout puissant, non pas au sens où il imposerait sa volonté à l'homme pour pas qu'il y ait de péché, parce que si j'impose ma volonté à un autre, même si ma volonté est bonne, c'est pas de l'amour. L'amour ne s'impose pas aux autres. L'amour n'étouffe pas. Donc quand on dit que Dieu est tout puissant, il faut pas vous imaginer la grosse main du Père qui descend du ciel et qui va s'imposer à nous. Les orthodoxes disent que Dieu est tout puissant au sens qu'il est tout englobant. C'est-à-dire qu'il tout se passe en son sein et il est capable de tout transformer en vue du bien. Et c'est pour ça que saint Paul peut dire qu'effectivement, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Par exemple, une femme violée, que j'ai pu accompagner, témoignait qu'après sa blessure très douloureuse, grâce à sa foi, grâce au pardon qu'elle a pu donner, elle a expérimenté une grâce auquel elle ne s'attendait pas, et qui témoigne bien que le mal a été retourné comme une crêpe par la puissance de Dieu. Et cette grâce, c'est la grâce de jouir du temps présent. Et je vous assure que c'est phénoménal, la capacité qu'elle a pour se réjouir de tout le temps. Du style, on est en voiture, oh là, on n'est pas encore arrivé. Et puis ce sera la première à dire, mais écoutez, on est bien assis, c'est confortable, le paysage est beau, il pleut pas, on discute de manière sympathique entre nous. Allez, arrêtez, quoi, tout est bien. Elle a une faculté extraordinaire, quoi. Mais elle vous dira jamais, chic, j'ai été violée. Super, parce que maintenant j'ai cette grâce-là. Non, non, stop. Ou encore, je discutais mercredi dernier, donc là. Enfin, mercredi dernier, pas pendant le festival, donc il y a une petite dizaine de jours, avec un jeune homme de 30 ans qui avait été victime à plusieurs reprises de pédophilie quand il était servant de messe. Et donc quand il était enfant. Il a soudainement fait un burn-out complet parce que, vous savez, on a une réaction d'autoprotection. On cherche à se protéger en voulant oublier de notre mémoire, chasser de nous ce qui nous est arrivé, sauf que le corps se souvient de tout. Notre psychique aussi. Et il a soudainement fait un burn-out complet, il a plongé dans une déprime profonde, il a été hospitalisé pendant plusieurs semaines dans un hôpital psychiatrique. Et ça s'est passé au mois de mars de cette année. Aujourd'hui, il est sorti de cet hôpital après plusieurs semaines, il est auprès de ses parents, et sa foi en Dieu, son entourage, les traitements médicaux et les bons conseils qui lui sont donnés lui permettent de remonter la pente. Et c'est extrêmement impressionnant. Surtout pour moi qu'il connaissait déjà avant. C'est un jeune qui fait partie du groupe de jeunes étudiants et jeunes pros que j'accompagne au couvent de Paris. Je le reverrai bientôt. Et lui, quand il parle de son épreuve, et je vous l'ai dit, hein, c'est du lourd, quoi. On ne peut pas plaisanter avec ces choses-là. Mais quand il parle de son épreuve, il est soulagé de voir que tout son mal-être qui était enfoui a ressurgi et qu'il est progressivement en train de sortir de lui. Mais lui, comme cette femme qui a été violée, ne dit jamais « chic, j'ai été détruit par les agissements criminels d'un criminel ouais, », je vais l'appeler comme ça, ce bonhomme. Mais ceci dit, il a l'audace de la foi de dire qu'il vit un moment providentiel dans sa vie, malgré son moral qui a encore des hauts et des bas. Prenons un troisième et dernier exemple que vous connaissez tous, notre Seigneur Jésus le Christ. Ce n'était pas la volonté du Père, volonté perverse, que Jésus soit envoyé auprès des hommes pour qu'il soit assassiné, complètement détruit par les hommes. Ce n'est pas le Père qui a poussé les hommes à crucifier Jésus. Le Père, il n'a pas envoyé les anges pour dire « Allez-y les gars, allez-y, quoi, déchaînez-vous ». Mais le Père a posé le constat par avance que Jésus serait crucifié par les hommes et qu'ainsi, par ce mal qu'on ne dépassera jamais en termes de cruauté, il pourra donner le salut au monde. Là aussi, le mal absolu, crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ qui était innocent de manière absolue, ce mal absolu a été retourné comme une crêpe pour nous offrir le salut. Le Père a su utiliser le mal absolu pour en tirer un bien inestimable. Alors, ce qui est intéressant à ce point-là, mais on va revenir à Thérèse, hein, c'est que nous pouvons retirer de ces trois événements, et notamment de la crucifixion de Jésus, qu'un mal que nous vivons, un malheur, une souffrance, une difficulté, une injustice que nous pouvons subir, ce n'est jamais le signe d'un moindre amour de Dieu pour nous. Parce qu'on a ça en tête hein, quand même, il faut qu'on se le dise. On est des hommes et des femmes de peu de foi, moi le premier, et bien souvent quand j'ai un gros pépin, je me dis, mais attends, après tout ce que je fais, Seigneur, pour toi, voilà, dans la misère dans laquelle tu me laisses, puis je fais mon caliméro, c'est pas juste. Non. Les malheurs que je peux, les injustices que je peux subir ne sont jamais un moindre signe de l'amour de Dieu pour moi. Contrairement à une certaine théologie de la prospérité qui fait foison dans les églises évangéliques, et après, nous, les prêtres catholiques, on ramasse à la petite cuillère des jeunes issus de ces églises-là et qui sont ramassés une grosse injustice, qui sont ramassés une grosse souffrance et à qui le pasteur a dit le plus naturellement du monde, bah, si tu en es là, c'est que tu n'es pas béni. Bref, j'épilogue pas. De plus, la souffrance, l'injustice que nous pouvons subir quand nous la traversons, elle n'est pas vaine comme l'a été celle de Jésus. Dieu est un tel virtuose que même avec un violon cassé, il peut faire une musique extraordinaire. En fait, rien, absolument rien, n'échappe au plan de salut de Dieu pour nous. Aucun événement tragique, aucune absurdité n'a de caractère définitif. La foi transporte les montagnes, nous dit Jésus. Et toute la bêtise, tout l'aveuglement des hommes peuvent être ressaisis par l'amour tout-puissant de Dieu. Et il est capable, encore une fois, de faire tout entrer, même l'absurde, dans son plan de vie pour nous. Et c'est là la puissance de la miséricorde. Alors on va revenir à Thérèse pour voir comment elle a expérimenté ça dans sa propre vie. Et nous continuerons demain en continuant à voir comment Dieu agit dans nos vies. Parce que pour l'instant, je n'ai pas dit grand-chose en fait. Hein. J'ai juste dit ce que ce n'était pas que la providence divine. Pour l'instant, je n'ai pas dit grand-chose. Mais laissons la parole à Thérèse de Lisieux. Thérèse, elle naît en 1873, donc à Alençon, en Normandie, donc c'est une bonne Normande. Et dans sa vie, il y a Jésus, depuis tout petite. Elle a la chance de vivre dans une famille catholique dont la foi porte Thérèse vers le haut. Et quand elle écrit Histoire d'une âme, Thérèse nous dit « Ce n'est pas ma vie, proprement dite, que je vais écrire. Ce sont mes pensées sur les grâces que le bon Dieu a daigné m'accorder. » Alors prenons Thérèse au sérieux, si nous aussi nous voulons profiter de l'action divine en nos vies. Et ne nous disons pas, je le dis dès maintenant, « Oh, vous savez, moi je suis une chrétienne moyenne, je suis un chrétien moyen, alors je fais comme je peux avec l'aide de Dieu, mais enfin, il fait pour moi quelque chose de temps en temps, providentiellement, mais c'est tout. » Non, il fait quelque chose pour moi providentiellement tout le temps. Il l'a fait hier, il l'a fait aujourd'hui, il va le faire encore pour vous au long de la journée et il le fera demain. Si Dieu nous fait la grâce d'être encore vivant tout à l'heure ou demain. Alors que se passe-t-il pour Thérèse? Thérèse, elle naît à Alençon le 2 janvier 1873. Elle est la 9e et la dernière née du foyer de Louis et de Zélie Martin, de Saint Louis et de Sainte Zélie Martin, qui, vous savez, nous ont donné Sainte Thérèse, et pas l'inverse. C'est pas la petite Thérèse qui nous a fait croire que, bah, comme elle est sainte, donc les parents, non, ils doivent être saints aussi. C'est l'inverse. C'est parce que Louis Zélie était saint qu'ils ont grandement contribué à la sainteté de la petite Thérèse. Enfin, je voudrais juste rendre justice aux parents. Voilà, je pense que devant moi, il y a beaucoup de parents aussi. Bref. Tout se passe bien dans la petite enfance de Thérèse. Elle est choyée par ses grandes sœurs. Elle est aimée de ses parents, de Louis et Zélie. Et sa mère, elle écrit qu'elle se réjouit d'avoir un lutin sans pareil, parce que Thérèse, elle est très expansive, elle est très joyeuse, elle est farceuse, elle est espiègle. Et son père la surnomme ma petite reine. Sauf que le malheur frappe la famille. Zélie meurt d'un cancer du sein le 28 août 1877. Quand on a exhumé le corps de Zélie Martin, qui était jusqu'en 2006, jusqu'en 2008, pardon, derrière la basilique de Lisieux. Quand on a exhumé les corps de Louis et de Zélie, on a retrouvé les traces du cancer dans le corps de Zélie. Et son cancer avait été tellement virulent qu'il a laissé un trou gros comme un pois chiche dans un des os de son épaule gauche. Alors, je crois que c'est l'omoplate, mais je ne suis pas sûr de moi. En tout cas, voilà un événement très douloureux pour la maman qui en décède. Thérèse nous dit alors, une nouvelle période allait commencer pour mon âme. Je devais passer par le creuset de l'épreuve et souffrir dès mon enfance. Ben oui, Thérèse, elle a 4 ans. Imaginez-vous de perdre votre maman à 4 ans. C'est terrible. On connaît en général cet épisode de la vie de Thérèse qui perd sa maman, qui perd Zélie, mais on oublie souvent deux points. Le premier, c'est que combien ça a été douloureux pour elle, comme elle vient de nous le dire. Et le second, c'est que ce creuset de l'épreuve dont elle parle, il a quand même duré 10 ans. Donc arrêtons là aussi de faire de Thérèse quelqu'un qui a tout réussi, qui a tout vécu bien, et dont la vie, encore une fois, aurait été rose bonbon. Et ce creuset de l'épreuve, j'espère que vous en êtes conscient, n'a rien à voir entre un péché que Thérèse aurait pu commettre et la sanction, la punition qui lui est infligée. Quel enfant de 4 ans mérite que sa mère décède? Donc là aussi, arrêtons de nous dire, ben voilà, j'ai une grosse bricole dans ma vie, ça veut dire que Dieu s'est éloigné de moi, ou que j'ai fait quelque chose qui franchement a beaucoup déplu à mon Seigneur pour que j'en sois arrivé là. Et Jésus lui-même, dans les évangiles, se bat contre cette façon que nous avons trop souvent de raisonner. Prenons Jean chapitre 9. Vous savez, Jésus est entouré de ses apôtres et il voit un aveugle né de naissance. Quelle est la question des apôtres? Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle de naissance, lui ou ses parents? Et Jésus de répondre, mais ni lui ni ses parents n'ont péché. Mais, toute puissance de Dieu, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ou bien, un autre exemple, donc là c'est plutôt en Luc 13, l'affaire des Galiléens massacrés par Pilate. Des Galiléens s'étaient réunis pour offrir un sacrifice à Dieu et Pilate arrive avec ses troupes et les fait tous passer au fil de l'épée, donc ils en meurent. Et. On informe Jésus de cet épisode. Alors, on informe Jésus d'un air de dire si tu pouvais condamner cette action mauvaise de la part de l'occupant romain, ce serait bien. Et Jésus répond, mais croyez-vous que pour avoir subi un tel sort, ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Non. Pas de lien direct entre mon péché et ce que je vis dans ma vie. Ce que j'aurais pu faire comme péché et ce que je vis dans ma vie. Et Jésus insiste, où ces 18 personnes qui ont été tuées dans la chute de la tour de Siloué, croyez-vous que leur dette, leur péché, si vous préférez, était plus grande que celle de tous les autres habitants de Jérusalem? Non. Alors pour revenir à Thérèse, soyons comme elle. Thérèse ne dit pas, ben voilà, je suis passé par le creuset de l'épreuve parce que franchement, je valais bien ça comme punition de la part du bon Dieu. Dernière petite anecdote, j'étais au couvent de Paris lorsqu'il y a eu la première vague du coronavirus, vous savez, quand on allait tous être bien confinés, bien rester chez nous, interdiction de sortir, sauf si on avait la chance de pouvoir sortir un petit chien ou un petit chat en laisse. Bon, si tu avais un poisson rouge, tant pis pour toi. Et des ouvriers viennent au couvent pour réparer la chaudière. Et l'un des deux me dit, frère, vous ne pensez pas que le coronavirus, c'est une punition de Dieu? Et voilà, boum, on a tout ça en tête, quoi. Alors j'ai essayé de lui faire comprendre hein, que c'est pas le bon Dieu qui a inventé le virus du Covid, hein, que les humains ont quand même une grosse part de responsabilité là-dedans. Mais voilà, faut ramer à contre-courant par rapport à cette idée qu'on a en tête. Alors, je reviens à Thérèse, à 4 ans. C'est un choc affectif terrible. Elle écrit. Tous les détails de la maladie de notre mère chérie, le jour ou le lendemain du départ de maman, il, c'est-à-dire son père Louis, me prit dans ses bras en me disant « Viens embrasser une dernière fois ta pauvre petite mère. » Et moi, sans rien dire, j'approchais mes lèvres du front de ma mère chérie. Je ne me souviens pas d'avoir beaucoup pleuré. Je ne parlais à personne des sentiments profonds que je ressentais. Réaction d'autoprotection, comme on le voit pour tout ce qui est pédophilie, etc. Autoprotection. Je regardais et j'écoutais en silence. Personne n'avait le temps de s'occuper de moi. Aussi, je voyais bien des choses qu'on aurait voulu me cacher. Une fois, je me trouvais en face du couvercle du cercueil. Je m'arrêtais longtemps à le considérer. Jamais je n'en avais vu, et pourtant, je comprenais. Comme beaucoup d'enfants ou d'adolescents, Thérèse cherche à se protéger du malheur qui frappe le foyer familial. Elle parlait à personne, comme elle nous le dit, des sentiments profonds qui l'habitent. Et, je reprends Thérèse, à partir de la mort de maman, mon heureux caractère changea complètement. Moi, si vive, si expansive, je devins timide et douce, sensible à l'excès. Un regard suffisait. Pour me faire fondre en larmes, il fallait que personne ne s'occupe de moi pour que je sois contente. Je ne pouvais pas souffrir la compagnie de personnes étrangères et je ne retrouvais ma gaieté que dans l'intimité de ma famille. Et effectivement, quand vous lisez dans l'histoire d'une âme le manuscrit A, il n'y a pas quelque chose qui vous étonne? Thérèse, elle parle de tout le monde, c'est-à-dire uniquement de sa famille. Et c'est tout. Rose Taillée, la nourrice qui lui a sauvé la vie, elle n'est pas nommée, elle en parle juste au passage. La sous-préfète avec qui elle est amie, qui habite juste en face de la maison encore aujourd'hui, hein, enfin encore aujourd'hui, la maison de la sous-préfète en face de la maison natale de Thérèse, pas un mot. Les copines qu'elle avait à l'abbaye bénédictine de Lisieux, pas un mot. Thérèse, elle est complètement recroquevillée sur elle-même. Elle s'autoprotège. Dès lors, Thérèse n'en finit pas d'avoir peur d'être oubliée, d'avoir peur d'être abandonnée, d'avoir peur d'être laissée de côté. Et pour se rassurer, elle développe alors une hypersensibilité. Vous savez que Thérèse, elle pleure pour un oui ou pour un non, et ensuite elle pleure une deuxième fois parce qu'elle se rend compte qu'elle a pleuré pour un oui ou pour un non. Et c'est elle-même qui l'écrit. Et alors, devant ce choc terrible de la perte de sa maman, Thérèse va se dire, bah, moi je veux une deuxième maman. C'est normal, elle a 4 ans, encore une fois, hein, comme Céline qui va choisir une deuxième maman. Et Thérèse va demander à Pauline si elle accepte d'être sa seconde maman. Alors vous avez lu l'histoire de Thérèse qui demande à Pauline d'être sa seconde maman, mais ça, ce n'est pas la vraie histoire. Thérèse, elle est très charitable, elle ne dit pas tout. Thérèse va voir Pauline. Et lui dit, est-ce que tu veux être ma deuxième maman? Et Pauline lui répond immédiatement, écoute, c'est une décision importante à prendre, laisse-moi quelques jours pour réfléchir et je reviendrai vers toi pour te dire si je suis ta deuxième maman ou pas. Et oui, Pauline, elle a 16 ans. Et elle sent déjà en son cœur la vocation à devenir moniale. Alors elle pense à autre chose que le Carmel, hein, mais peu importe. Et donc c'est pour ça que Pauline lui dit, écoute, prudence, laisse-moi le temps de réfléchir. Les jours passent, Pauline va retrouver Thérèse et elle dit à Thérèse, j'ai réfléchi, j'ai discerné en mon cœur, j'accepte d'être ta seconde maman et puis tu sais, si je dois partir du foyer familial, eh bien je te le dirai et puis je t'attendrai. encore une fois, hein, elle sait, elle se doute qu'elle va partir pour devenir moniale plus tard. Oui, je t'attendrai. J'attendrai que tu sois grande. Voilà, pas pour que tu viennes avec moi au Carmel, hein, mais j'attendrai, voilà, que tu sois suffisamment autonome, mûre. Et c'est là où le second drame dans l'enfance de Thérèse vient la heurter. Parce qu'elle écrit que, au détour d'une conversation familiale, par hasard, au mois d'octobre 1882, Thérèse a 9 ans, elle apprend que Pauline va partir pour rentrer au Carmel sans attendre Thérèse, sans avoir prévenu Thérèse. Pour Thérèse, hein, faut s'imaginer, c'est une deuxième mort de sa mère. Plus terrible que la première, parce que la première mort de sa maman, c'est une mort naturelle. La mort de sa deuxième maman, c'est une mort par trahison. Thérèse est profondément trahie par sa propre mère. Elle l'écrit. Elle apprend que sa chère Pauline, donc elle surprend sa chère Pauline parler avec Marie de son entrée prochaine au Carmel, et Thérèse rajoute qu'elle comprend alors que Pauline, je la cite, allait la quitter pour entrer dans un couvent. Elle comprenait qu'elle ne l'attendrait pas et qu'elle allait perdre sa seconde mère. Ah, rajoute Thérèse, comment pourrais-je dire l'angoisse de mon cœur? Je versais des larmes bien amères. Si j'avais appris tout doucement le départ de ma Pauline chérie, je n'aurais peut-être pas autant souffert, mais l'ayant appris par surprise, ce fut comme si un glaive s'était enfoncé dans mon cœur. Et dans une de ses lettres, Thérèse va dire qu'à partir de ce moment-là, Pauline était morte pour elle. Donc c'est vraiment une histoire de mort. Alors morte pour elle au sens, bah, elle n'est plus dans la maison, etc. Hein. Pas morte au sens où j'ai la flingue. Hein. Et c'est alors que Thérèse tombe gravement malade, complètement recroquevillée sur elle-même. Mettez-vous à sa place. Est-ce que l'amour d'une maman, c'est vrai ou si c'est du pipeau? Est-ce que vraiment je suis aimée? Ou est-ce que, bah, voilà, je suis toujours délaissée, mise à l'écart? Vous n'avez jamais posé ce genre de questions? Thérèse, est-ce qu'elle a vécu puissance 10 ou 20? Léonie, hein, qui est témoin de la maladie de Thérèse, qui se recroqueville sur elle-même, parle même de délire et de convulsion de Thérèse. Un jour, son papa, Louis-Martin, monte les escaliers pour aller voir comment va Thérèse, qui est alitée. Et Thérèse, en voyant son papa arriver, alors le papa, il avait encore son chapeau melon sur la tête. Et Thérèse, voyant son père avec le chapeau melon, s'écrie: Ah, oh, la vilaine bête, la vilaine bête! Elle commence à faire une crise. Et là, le papa s'enfuit de la chambre et s'écrie en pleurs dans les escaliers: Ma fille est devenue folle, ma fille est devenue folle. Thérèse ne reconnaît même plus son propre père, Louis-Martin. Et là, j'ai envie de dire, c'est pareil, réaction d'autoprotection. Puisque je ne suis pas sûr d'être aimé par ma mère, bon, mon père, c'est pareil, hein. Et il va pas me faire le coup pareil aussi, de mourir lui aussi, quoi. Et c'est alors que Thérèse va vivre une grâce de guérison et que par la suite, elle va vivre un déclic, une force d'âme qu'elle va retrouver. Et c'est cette force d'âme qui va beaucoup nous parler, du moins j'espère, pour que nous puissions bénéficier nous aussi de l'œuvre de la providence divine. Parce que pour l'instant, on n'a vu que les malheurs de Thérèse, hein, qui fait ce qu'elle peut. Pour l'instant, on est en train de se dire, bah oui, mais et moi là-dedans. Bon. La guérison de Thérèse. Thérèse, voilà, pendant que plusieurs mois, elle est recroquevillée sur elle-même, complètement perturbée au plus intime de son être. Pauline, de son côté, qui est devenue postulante au Carmel, apprend l'affaire. Donc Pauline, elle commence à culpabiliser, mettez-vous à sa place. Elle a quand même fait une connerie, hein, enfin pas celle d'entrer au Carmel, mais celle de ne pas avoir prévenu Thérèse et de ne pas l'avoir attendue, quoi. Et c'est alors que, c'est juste pour la petite histoire, je ne peux pas m'empêcher de la dire, en avril 1884, c'est-à-dire 2 mois avant la guérison de Thérèse, Pauline lui envoie une petite lettre avec un scapulaire pour lui dire revêt-toi de ce scapulaire pour invoquer la guérison de la Vierge Marie. Et Thérèse va porter le scapulaire avant de recevoir l'imposition officiellement 1 an après. Bon, Voilà, oublions ce détail, sinon je vais m'égarer. Donc les mois passent, et le dimanche 13 mai 1883, Thérèse a 10 ans. Thérèse fait alors une crise plus aiguë que d'habitude. Et alors les trois sœurs qui sont encore dans la maison, c'est-à-dire Marie, la sœur aînée, Léonie et Céline, courent dans la chambre de Thérèse et s'agenouillent du côté de la Vierge du Sourire. Eh ben non. Oh, j'aime beaucoup faire ça parce qu'en fait, on l'appelle la Vierge du Sourire à partir que la Vierge Marie lui est souri. Mais jusqu'à présent, c'est la Vierge de l'Annonciation. Oui, une Vierge qui était à l'époque très, très connue. Je fais juste un petit excursus là-dessus parce que l'histoire est assez jolie. C'est le curé de Saint-Sulpice, à l'époque du roi Louis XV, qui demande à avoir une grande statue de la Vierge de l'Annonciation. Et donc, il veut qu'elle soit en argent. Et ses paroissiens se disent: on a quand même déjà déboursé beaucoup d'argent pour la construction de Saint-Sulpice, qui d'ailleurs n'est toujours pas terminée. Et là, voilà que le curé nous redemande des sous. Alors le curé, qui est un peu futé, dit à ses paroissiens: bah, écoutez, j'accepte que vous m'invitiez chez vous pour vos repas, comme vous le faites d'habitude, je viendrai bien volontiers, mais je repartirai avec les couverts en argent. Alors, quand il est invité par ces messieurs et ces dames qui ont des moyens, donc ben, on lui met des couverts en argent, mais des vieux couverts en argent, des vieilles fourchettes en argent toutes usées, des vieux couteaux en argent toutes usés. Et donc, il revient à Saint-Sulpice à chaque fois avec ça. Il fait fondre tout ça et il fait une Vierge de l'Annonciation qui est vite surnommée Notre-Dame de la vieille vaisselle. Et donc, cette Vierge de l'Annonciation va avoir plusieurs petites répliques, dont celle que nous connaissons bien à l'heure d'aujourd'hui, hein, en albâtre, en plâtre. Et il faut bien avoir s'imaginer que la Vierge Marie, elle est habillée très simplement dans un drapé qui flotte au vent. Et pourquoi le drapé flotte au vent? Parce qu'il faut bien voir, hein, qu'elle a un ange en face d'elle, l'archange Gabriel, qui est en train de lui faire, qui est en train de lui dire tu enfanteras, et apparemment un archange ça fait du vent, et donc c'est pour ça que le drapé flotte. Et mademoiselle Félicité Baudouin, qui était une dame très fervente habitant à Lisieux, offre cette statue à monsieur Louis Martin quand il est célibataire. Il va l'installer dans le jardin du pavillon. Et après, quand il va se marier, c'est sa femme, Zélie, qui dit: non, 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 il faut rapatrier là, cette Vierge-là dans la maison. Et c'est pour ça que nous avons la Vierge Marie dans la chambre où Thérèse est là, alitée. C'est la Vierge, pour l'instant, de l'Annonciation. Et donc, les trois filles qui ont accouru auprès de Thérèse pour prier Notre-Dame, pour la supplier de guérir Thérèse, sont là, toutes les trois, en train de prier Marie. Et. Je laisse la parole à Thérèse qui nous dit: ne trouvant aucun secours sur la terre, la pauvre petite Thérèse était aussi tournée vers sa mère du ciel, donc la Vierge Marie. Elle la priait de tout son cœur d'avoir enfin pitié d'elle. Tout à coup, la Sainte Vierge me parut belle, si belle que jamais je n'avais rien vu de si beau. Son visage respirait une bonté et une tendresse ineffables, mais ce qui me pénétra jusqu'au fond de l'âme, ce fut le ravissant sourire de la Sainte Vierge. Alors toutes mes peines s'évanouirent. Cette grâce du sourire de la Vierge Marie pénètre Thérèse jusqu'au fond de son âme, parce que c'est vraiment des douleurs qui sont très très profondes en nous. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand elle écrit cet épisode-là dans l'histoire d'une âme, Thérèse dit bien: il fallait un miracle pour me sauver, et ce miracle, ce fut Notre-Dame des Victoires qui le fit. Parce que Louis Martin, il fait faire une neuvaine à Notre-Dame des Victoires, à la Basilique à Paris, pour obtenir la guérison de sa fille. Et qu'est-ce qui guérit Thérèse? Le sourire d'une maman. Le ciel, à travers Marie, fait comprendre que si, Thérèse, tu es aimée d'un amour très fort, tu es aimée d'un amour maternel. Oui, ça s'est mal passé avec ta première maman. Oui, avec ta deuxième maman, ça a été pire encore. Mais je te montre, par mon sourire de maman, sans que j'ai besoin d'avoir aucune parole, parce que vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent entre une maman qui est en train de balader son petit dans une poussette. Des petits sourires, des petits guilis, des petits gestes, pas besoin de parole. D'ailleurs, le petit enfant, généralement, il ne sait pas trop encore parler. Et c'est ça, c'est cette grâce-là maternelle qui sauve Thérèse. Les trois filles qui sont là agenouillées, alors au témoignage de Marie, elle mettra ça par Marie, la fille aînée, hein, qui mettra ça par écrit après. Marie dit que elles étaient agenouillées et tout à coup, elles s'aperçoivent que Thérèse, d'un bond, enfin en tout cas d'un geste soudain, se relève de son lit alors qu'elle était quasiment auto-paralysée, tourne son visage vers la statue de la Vierge. Alors les filles voient pas hein, ce qui se passe avec la Vierge. Elles voient Thérèse pleurer silencieusement. Et avant même que Thérèse reprenne la parole ou autre, Marie, alors les deux autres sœurs, je ne sais pas, mais Marie, la sœur aînée, comprend que Thérèse est guérie. Alors voilà, Thérèse, qui était jusque-là habitée par deux contraires en elle, d'un côté la confiance et la foi d'être aimée par Dieu, par son entourage familial, et d'un autre côté, la peur d'être abandonnée, la peur du mal qui lui est infligé. Ces deux contraires habitent en Thérèse, et à partir de ce moment-là, il y en a un qui va prendre progressivement le dessus, c'est celui de la confiance et de la foi. Et c'est ainsi que Thérèse va retrouver cette force d'âme qu'elle avait perdue jusque-là. Et c'est là où Thérèse va commencer à tirer profit de la providence divine qu'elle va commencer à percevoir agir dans sa vie. Parce que jusqu'à présent, elle est submergée par le malheur, elle ne voit rien. Quand elle écrit Histoire d'une âme, elle écrit Histoire d'une âme bien des années après, et elle revoit sa vie avec l'œuvre de la providence divine qu'elle discerne dans sa vie. Mais pour l'instant, elle se rend compte de rien. Mais à partir de ce moment-là, elle voit comment Jésus agit avec elle dans sa vie. Parce que, voilà, Thérèse est guérie depuis ce jour-là, tout se passe bien. Thérèse écrit qu'il fallait absolument qu'elle garde son secret pour elle-même, sinon, sinon il y aurait inévitablement des ragots, etc. Et, pas de chance, Thérèse, bah évidemment, elle va au parloir du Carmel de Lisieux, là où se trouve sa grande sœur Pauline. Et alors, les carmélites, bah alors, comment tu as été guéri? Dis-nous comment ça s'est passé. Et parmi les carmélites, il y a Pauline qui rajoute une couche. Alors, je suis très contente, tout se passe bien maintenant et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Thérèse lâche le morceau, entre guillemets. Et donc, elle dit, bah voilà, j'ai vu la Vierge me sourire, ce sourire maternel qui m'a empoigné au plus profond de moi. J'ai senti une grande grâce de délivrance, le fait que je peux respirer, que oui, je suis abandonné, que oui, Dieu est à mes côtés et que, il sera toujours là au sein de mes épreuves. Et les carmélites, comme le tout Lisieux, de faire comprendre à Thérèse, mais si la Vierge Marie s'est manifestée à toi, ma petite, c'est que tu dois être une sainte et une grande sainte, parce que la Vierge Marie ou les faveurs du ciel ne sont données qu'aux grands saints. Et là, paf, injonction à la sainteté qui tombe sur Thérèse. Et Thérèse plie sous le poids du scrupule. Oh, bah, est-ce que je vais être une grande sainte ou pas? Et bam, injonction. Et donc là où Thérèse avait été guérie d'un manque d'amour maternel, pouf, elle retrouve alors là des scrupules. Qui vont durer très longtemps, eux également. Et Thérèse nous écrit, il faut avoir passé par ce martyre pour bien le comprendre. Dire ce que j'ai souffert me serait impossible. Et ce qui fait que Thérèse est encore fragile. Elle a vécu une grâce de guérison avec la Vierge Marie, mais elle est encore fragile. Et c'est là où elle écrit qu'elle se définit elle-même, donc je la cite, comme bien imparfaite, vraiment insupportable par sa trop grande sensibilité, pleurant pour la moindre peine, puis pleurant d'avoir pleuré. Et cette force d'âme qu'il a quittée à l'âge de 4 ans et demi, lors du décès de sa maman Zélie, Thérèse va la retrouver lors de la grâce de Noël 1886. Alors là aussi, c'est un épisode de la vie de Thérèse qu'on connaît bien, mais qu'on connaît trop bien. Alors on passe à côté, on raconte l'histoire et pouf, on passe à autre chose. On va faire un petit focus sur qu'est-ce qui s'est passé entre Thérèse et Jésus. Vous voyez la scène, hein? Nous sommes le jour du 20, enfin plutôt la nuit du 24 au 25 décembre 1886. Thérèse a 13 ans, elle aura 14 quelques jours après, ils vont à la messe de minuit, comme ce qu'on peut faire aussi, hein. Et donc, de retour de la messe, bah, la petite famille, c'est-à-dire lui, le papa, et puis les filles qui sont là, bah, retournent chez eux, et puis vous savez, c'est là où au pied de la cheminée, il y a les souliers avec des petits cadeaux glissés dans les souliers pour les filles, et c'est à ce moment-là que les filles peuvent ouvrir les cadeaux. Et Thérèse, qui a quand même presque 14 ans, elle est toujours comment dire, ce côté enfantin de la petite fille, voilà, qui va ouvrir ses cadeaux. Donc c'est pas du tout l'adolescente pré-adulte qu'elle aurait pu être, qu'elle aurait dû être après de 14 ans. Et elle écrit, et là elle commence à faire parler la providence divine. Jésus, voulant me défaire des nœuds de l'enfance, c'est Jésus qui est le sujet dans la vie de Thérèse. Jésus, voulant me défaire des nœuds de l'enfance, m'en retira aussi les innocentes joies. Il permit que papa, fatigué de la messe de minuit, éprouva de l'ennui en voyant mes souliers dans la cheminée et qu'il dit ces paroles qui me percèrent le cœur. Enfin, heureusement que c'est la dernière année. Mettez-vous à la place du papa. Sa fille, elle a près de 14 ans. Elle agit toujours comme une petite fille de 5 ou 6 ans qui veut avoir ses petits cadeaux à Noël en croyant à Père Noël. Mais bon, ça, c'était pas vrai à l'époque. Hein, mais c'est ce qu'on dirait à l'heure d'aujourd'hui. Donc, le papa, il est un peu fatigué et puis il lâche cette phrase. Ah, heureusement que c'est la dernière année. D'ailleurs, c'est une phrase qui fait beaucoup rire un de nos frères Carme, un frère théologien qui est professeur à l'Institut catholique de Lille, puisqu'il nous dit, en fait, c'est la seule parole qu'on connaît de Saint Louis Martin, quoi. Heureusement que c'est la dernière année. Alors voilà, Louis qui est fatigué lâche cette parole qui résonne de manière terrible dans la sensibilité de Thérèse. Thérèse monte très rapidement les escaliers, les yeux brillants de larmes, comme elle le dit. Et Céline, qui est témoin de la scène, qui est témoin de ce qui se passe, Céline sait qu'il va y avoir une explosion de pleurs de la part de Thérèse. Elle lui dit, non, attends, ne redescends pas tout de suite, d'un air de dire, lâche-toi un bon coup, pleure tout ce que tu peux, puis après redescends quand tu n'auras plus de larmes, quand tout aura été asséché. Mais Thérèse n'était plus la même. Jésus avait changé son cœur. Elle redescend, Thérèse, comme si rien s'était passé. Elle tire joyeusement les cadeaux sous les rires de joie de son papa. Et Thérèse de conclure en un instant. La petite Thérèse avait retrouvé sa force d'âme qu'elle avait perdue à 4 ans et demi, et c'était pour toujours qu'elle devait la conserver. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, Thérèse, elle est très discrète, hein, là, comme pour Pauline. Hein, pour Pauline, elle n'a pas trop dit la vacherie qu'elle lui a faite. Hein. Et là, pareil, elle est très discrète sur qu'est-ce que Jésus a fait en son cœur, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette métamorphose dans le cœur de Thérèse. Surtout qu'elle commente encore et elle dit « Depuis cette nuit bénie, je ne fus vaincue en aucun combat, mais au contraire, je marchais de victoire en victoire, et je commençais, pour ainsi dire, une course de géants. » Alors quand elle écrit « Je ne fus vaincu en aucun combat », ça ne veut pas dire qu'elle ne subit plus aucune croix, qu'elle ne subit plus aucune injustice, qu'elle ne subit plus aucune difficulté, qu'elle ne pêche plus du tout. Mais ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, tous les événements, grâce à la providence divine, elle les retourne par la grâce de Jésus comme une crêpe pour s'élancer dans une course de géants. Alors, est-ce qu'on arrête là ou est-ce que vous voulez savoir ce que c'est en fait? Eh bien, alors on va continuer. Ben, pour Thérèse, de manière fondamentale, la grâce qu'elle reconnaît, la grâce qu'elle expérimente, c'est celle d'accepter, de renoncer à bénéficier sur terre ce dont elle bénéficie au ciel, c'est-à-dire d'un amour inconditionnel, dont l'amour maternel, pour Thérèse, est le reflet. Quand elle redescend à l'escalier, je développe, hein, parce que pour l'instant, voilà, on est un peu perdu. En fait, voilà. Alors, je vais reprendre. La grâce qu'elle expérimente, c'est celle d'accepter de renoncer à bénéficier sur terre de cet amour inconditionnel dont elle jouit au ciel. Sur terre, c'est pour ça que la croix est là, je vous le disais tout à l'heure. Sur terre, l'amour qui nous enveloppe n'est jamais parfait. Alors que notre cœur, lui, il est assoiffé d'amour. On vit par amour, on est fait par amour. On a été créé par quelqu'un, Dieu, qui est amour. Dieu est amour. Hein, Jean 4, il le dit à plusieurs reprises. Et il est normal que j'aspire à être aimé et à aimer sans limite, selon ma finitude d'être créé, mais de manière inconditionnelle. Or, j'expérimente sur terre que tous les jours, Mais absolument tous les jours, il y a des limites partout. Voilà, je me réveille ce matin, je suis très content, je suis au Festival Notre-Dame-du-Lot, j'ouvre la porte pour aller prendre ma douche, et je dis bonjour au bonhomme qui vient de sortir de la douche, et puis qui lui, pas très bien réveillé, me répond blablabla. Et je me dis, mais quel celui-là. Et voilà, pourquoi je me dis ça? Bah parce que moi, bah, j'attends d'être aimé, et là je vois une grosse limite à mon enthousiasme, etc. Et c'est pas normal. Et je me dis, c'est trop injuste, et j'aurais fait mon caliméro. Et là, la providence divine ne peut pas agir. La providence divine a permis que je croise cet homme qui me fait parce qu'il n'est pas très bien réveillé, parce qu'il a encore la mâchoire pâteuse. Et d'ailleurs, peut-être qu'en fait, il ne s'était pas lavé les dents, c'était pour éviter de me faire profiter de son haleine. Peut-être, hein, bref. Quand elle redescend l'escalier, Thérèse, elle a renoncé à cet amour parfait, paradisiaque, qu'elle attendait de son papa. Et que j'oserais dire qu'elle exigeait de son papa. Bah, son papa, c'est qu'un homme. Et elle se rend compte, bah oui, c'est qu'un homme, et bah, c'est normal qu'il fait beaucoup pour moi. Il m'aime à la fois comme un père et comme une mère, c'est elle-même qui le dit. Mais c'est normal aussi bah, que son amour soit limité aussi. Et donc, je ne veux plus m'en étonner et je veux l'accepter. Et on en est tous là. Thérèse? Alors, elle est revenue sur cet épisode-là à la fin de sa vie quand elle était à l'infirmerie. Je vais revenir sur cet épisode-là où Thérèse commente elle-même ce qu'elle a vécu. Cette grande force d'âme que Thérèse retrouve, c'est une force de ne plus autant attendre que tout soit parfait, sans contrariété dans notre vie. Jésus nous le dit, portez votre croix. Et Thérèse, 1. Ne s'étonne plus qu'il y ait la croix dans sa vie. 2. Accepte enfin, pleinement, de porter sa croix. Même si c'est un petit truc du style, heureusement que c'est la dernière année. Ses limites, tout autant que celles des autres, Thérèse désormais les accepte. Elle ne s'en étonne plus. Elle abandonne l'idée d'une vie parfaite sur terre. C'est fini ça. Elle renonce à se croire parfaite et à vouloir attendre des autres qu'ils soient parfaits dans leurs agissements envers Thérèse. Et là, on rejoint une intuition que beaucoup de mystiques, en tout cas au Carmel, ont pu développer et qui est fondamentale, c'est que Dieu est seul. Dieu est profondément seul. Au sens où, comme l'explique Sainte Élisabeth de la Trinité, par exemple, il n'y a personne d'autre que Dieu qui est comme Dieu. Dieu est amour, et en dehors de Dieu, vous ne trouvez rien, rien qui vous satisfasse comme Dieu lui-même. Et comme Dieu est amour, bah c'est pour ça qu'il est Trinité, parce que l'amour, bah voilà, l'amour fait toujours des projets, l'amour a besoin de se donner, et donc Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. Dieu, par amour, s'entoure des créatures, les anges et puis les hommes que nous sommes. Et cette solitude qui est celle de Dieu, parce que Dieu seul est comme Dieu, vous savez, c'est ce que dit Saint-Michel, hein, qui est comme Dieu? Bah, cette parole-là, elle résonne au plus intime de nos cœurs, de nos âmes. J'ai une solitude en moi. Cette solitude qui me fait, j'aspire à Dieu et je me sens seul parce que je ne suis pas encore en pleine communion avec lui. Je serai en pleine communion avec Dieu au ciel. Et donc, c'est normal que j'ai toujours cette part de solitude inscrite en mon cœur. Parce que tant que je ne bénéficierai pas de cet amour inconditionnel que j'expérimenterai au ciel et au ciel seulement, j'aurai cette part de solitude et cette croix avec laquelle je devrais vivre sur terre. Et cela, Thérèse l'accepte, le comprend et le vit à partir de cette grâce de Noël 1886. Acceptons le manque d'amour dont nous souffrons sur terre. Mais acceptons le manque d'amour dont nous souffrons sur terre, et vous vous rendez bien compte que c'est facile à dire, hein. Puis c'est facile à écrire, ouais c'est bien comme idée, mais il faut vraiment une force pour vivre ça au quotidien. Parce que nous aussi, comme Thérèse, on est appelés à entrer dans cette course de géants. On n'est pas fait pour être des lilliputiens de la sainteté, on est fait pour être des saints, et comme dit Thérèse, pas des saints à moitié. Voilà,